énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. C'est ce soir le coup d'envoi du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence dont nous vivrons les moments forts cette année encore sur notre antenne. À commencer par le concert d'ouverture dans une petite demi-heure en direct du Grand Théâtre de Provence avec Renaud Capuçon à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et la pianiste Martha Argerich. Avant cela, le clarinettiste Nicolas Baldéroux passera un moment avec nous pour nous parler de Mozart, dont il vient d'enregistrer des sérénades pour instruments à vent en compagnie de quelques prestigieux complices. Mais tout d'abord, comme chaque soir, un petit panorama de l'actualité musicale. Justin Taylor, qui était notre invité récemment dans ce journal du classique, sera dimanche matin sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées avec ce pianino Pleyel de 1839 dont il nous avait parlé et sur lequel il a enregistré son nouvel et si touchant album dédié à Chopin. Une matinée donc ce dimanche qui s'annonce intime avec justement la musique de Chopin mais aussi quelques préludes du clavier bien tempéré de Bach. La pianiste Marie-Ange Gucci sera, elle, vendredi prochain, le 18 avril, à l'Auditorium de Bordeaux. Elle jouera Liszt, un compositeur qui sied à merveille au tempérament de cette musicienne, qui est également chef d'orchestre et qui sait déployer de si belles palettes de couleurs avec son clavier. Et elle sera accompagnée ce soir-là par l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, sous la direction d'Emmanuel Villaume, dans le deuxième concerto de Liszt, un programme qui inclura également Siegfried Idyll de Wagner et la symphonie en ut de Bizet. Quelques rendez-vous musicaux au château de Compiègne. Le château de Compiègne, dont la nouvelle saison culturelle débute les 18 et 19 avril avec les printanières. Deux concerts. Premier concert avec le quatuor Ludwig, vendredi prochain, mais en formation sextuor, en compagnie de Raphaël Perrault et de Marc Desmond, pour un premier sextuor de Brahms et une transcription de la symphonie pastorale de Beethoven. Et puis, la pianiste Moussa Roubaki sera elle samedi 19 au château de Compiègne avec le chœur de l'université de Vilnius pour un programme entièrement dédié à Liszt, au dernier Liszt même, celui des harmonies poétiques et religieuses et de Via Crucis. Liszt, un compositeur si cher au cœur de la pianiste Moussa Roubaki que l'on écoute justement.
Thank you.
Quelques notes du sonnet 104 de Pétrarque de Franz Liszt, interprété par Mozart au Baquité. Mozart au Baquité jouera Liszt le 19 avril au château de Compiègne, dans le cadre du week-end Les Printanières.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Mozart est le compositeur naturel, évident, de tous les clarinettistes. Mozart dont on connaît l'amour pour la clarinette, lui qui a inspiré un célébrissime concerto, un tout aussi fameux quintet, sans oublier le trio des quilles. Mais pas uniquement, puisque la clarinette, il l'a aussi associée à d'autres formations, notamment ses sérénades. Ce sont justement des sérénades qui figurent au programme du premier volume de l'intégrale de l'œuvre avec clarinette de Mozart, dans laquelle s'est lancé Nicolas Baldi. Il est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, Laure.
Il y aura combien de volumes? Est-ce que vous savez déjà, vous avez déjà quantifié le nombre de volumes par rapport au nombre d'œuvres de Mozart dans laquelle on entend la clarinette?
Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment tout l'enjeu de ce projet. Il y aura 3 ou 4 volumes, selon que le troisième sera un double CD ou pas. On est encore en train de discuter avec Alpha Classique.
Oui, parce que c'est déjà un double CD.
Tout à
ce
fait.
Qui veut dire que Mozart a beaucoup écrit pour la clarinette. On a tendance à uniquement penser aux concertos, aux quintettes, aux trios.
Mozart a toujours adoré la clarinette. C'était un instrument qui était relativement jeune à l'époque, ouais. Un instrument assez rudimentaire, une clarinette qui avait seulement 5 clés. Et quand il avait une vingtaine d'années, il a découvert la clarinette, il a été complètement subjugué, il a écrit à son père « Ah, si nous avions des clarinettes !» Et son amour s'est jamais démenti, en fait, et surtout quand il a rencontré son grand ami Stadler, qui était à la fois un ami, qui était aussi un de ses frères maçons, je crois, il a vraiment noué une relation d'amitié qui s'est répercutée dans sa production à travers un nombre de pièces de musique de chambre absolument extraordinaires.
Et puis dans ses symphonies,
la clarinette a toujours des très très belles parties.
Alors ce premier volume nous rappelle, au-delà même de la clarinette, que Mozart aimait les instruments avant et qu'il avait su créer de merveilleuses textures sonores à travers justement ses sérénades. Il pouvait inventer des couleurs d'une grande richesse et d'une grande variété.
Bah absolument, déjà il y avait un grand goût pour les instruments avant à l'époque, puisque l'empereur Joseph II avait créé une harmonie impériale avec un octuor avant. Et Mozart, évidemment, qui était là-bas à cette époque, a du coup composé pour octuor avant, pour sextuor avant aussi, et pour toutes sortes d'ensembles. Mais il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une sorte d'ébullition dans la lutherie. Il y avait beaucoup de perfectionnement à l'époque dans les instruments avant. Et Mozart adorait ça. Il était toujours à l'affût des nouveautés. Il travaillait directement avec cet ami Stadler qui était clarinettiste, mais aussi une sorte d'inventeur génial. Et il était toujours au fait des dernières nouveautés. Et il savait utiliser les instruments comme personne. Il arrivait à utiliser les qualités, mais aussi les faiblesses des instruments, avec toujours une fin expressive et une fin musicale. Il arrivait à utiliser une note un peu bouchée, un peu voilée, pour en faire quelque chose de plus expressif et faire des couleurs absolument extraordinaires.
Et ce qui est fascinant, Nicolas Baldeyrou, dans ces sérénades que vous avez enregistrées, c'est que la sérénade, c'est un genre plutôt léger qu'on imagine pour le divertissement du plein air, du salon. Mais que dans ces sérénades, il y a une profondeur. Mozart ne les traitait pas à la légère, bien qu'il s'agissait de musique plutôt légère.
Non, l'enveloppe était divertissante, mais par contre, le contenu pouvait être absolument dramatique. Et opératique, absolument. On est tout à fait dans l'ambiance des opéras. D'ailleurs, l'emploi des tonalités, cette sérénade en ut mineur, par exemple, c'est une tonalité que Mozart n'utilise pas trop et qui a vraiment une résonance très, très particulière et très dramatique. Il arrive toujours à mettre de la profondeur dans ce qui paraît, voilà, de prime abord léger et plutôt superficiel, alors que pas du tout.
La profondeur et de l'humour aussi.
Exactement.
Le menuetto de la sérénade numéro 11 de Mozart par Nicolas Balderou, qui est notre invité ce soir sur Radio Classique, et ses partenaires, on va les citer, le clarinettiste Alexandre Chabot, les oboïstes Gabriel Pidoux et Hélène de Villeneuve, les bassonistes David Dousseau et Thomas Quinquennel, les cornistes, qui jouent sur corps naturel, David Guerrier et Hugues Vialon, et puis le contrebassiste Yann Dubost. On a l'impression, quand on entend ce menuet, par exemple, d'une conversation entre amis. On évoquait tout à l'heure le côté opératique de la musique de Mozart. Il y a une volubilité, il y a beaucoup d'éloquence qu'on perçoit dans ce type de mouvement, justement.
Ben, tout à fait, il y a ce côté discussion entre amis, c'est tout à fait le cas, et c'est exactement ce qu'on a essayé de reproduire dans ce groupe en fait, d'amis. On a enregistré ça en fait, après le confinement. Ça commence déjà à faire 3-4 ans qu'on a enregistré ce projet, et on a eu beaucoup de temps pour le faire et on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, on a modifié plein de choses, on a vraiment essayé de débattre et de construire quelque chose de collégial. Et c'était des conditions assez exceptionnelles justement pour enregistrer ce projet parce que on était après confinement, tout le monde avait beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc en effet, cette conversation entre amis, on est vraiment en plein dedans et c'est tout de l'art de l'orchestration de Mozart, voilà, de savoir faire se répondre les instruments comme ça, de savoir les mêler, de savoir trouver des textures absolument extraordinaires. Donc je suis très heureux que ça soit perçu comme ça, en tout cas.
Et puis alors, vous jouez sur des instruments d'époque. Est-ce que justement le fait de jouer sur des instruments anciens vous permet de développer cette articulation particulière qui donne cette éloquence et puis de faire ressortir ces couleurs?
Ah bah tout à fait. L'emploi des instruments d'époque change absolument tout. Oui. L'articulation, les sonorités, la façon surtout de mêler les timbres. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans un autre univers que les instruments modernes qui sont beaucoup plus puissants mais aussi beaucoup plus raides. Et donc là, on est dans quelque chose de très moelleux, de très mêlé justement, avec une intonation aussi, une justesse beaucoup plus malléable. On arrive vraiment à retrouver des sonorités de tempérament inégal, de faire bien ressortir les tierces majeures, enfin des choses que font les violonistes et les quatuors à cordes absolument au quotidien, mais qu'on a beaucoup moins l'habitude de faire sur les instruments avant modernes. Donc évidemment, je trouve que la couleur en est complètement modifiée, mais aussi la profondeur expressive, aussi tout le drame ressort beaucoup mieux avec ces timbres très particuliers.
Est-ce que c'est plus difficile, vous qui jouez à la fois sur instruments modernes et instruments anciens, comme je crois la plupart des musiciens qui participent à cet enregistrement, est-ce que c'est plus difficile sur instruments anciens ?
Alors moi, ça fait tellement longtemps que j'en fais, et du coup, que ça fait quand même plus de 25 ans que je suis vraiment, je me suis jeté à corps perdu dans l'étude des instruments anciens. Donc c'est quelque chose qui est devenu, on va dire, relativement naturel, mais les difficultés sont différentes en fait. C'est juste qu'évidemment, quand on vient de l'instrument moderne, il faut réapprendre des tas de choses. L'embouchure est complètement différente. On utilisait vraiment une embouchure comme le hautbois en fait à la clarinette, avec les deux lèvres à l'intérieur. Les doigtés sont complètement différents. On réapprend un nouvel instrument également, qui c'est, soyons francs, beaucoup plus gauche et beaucoup plus difficile de faire des choses virtuoses. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de facilité justement pour ce qu'on disait, pour l'intonation, pour la souplesse, et pour varier les couleurs en fait. On arrive à varier d'une seconde à l'autre, à quelque chose de très timbré, on passe à quelque chose de très doux et très sotto voce, avec beaucoup plus de facilité qu'à l'instrument moderne.
D'autant que même si vous appartenez tous à la famille des instruments avant, vous avez des couleurs, vous avez des techniques de jeu très différentes entre le basson, la clarinette, le cor. Il y a une multitude d'expressions différentes, ce qui fait la richesse de ce genre, de la sérénade, mais qui fait en même temps la difficulté peut-être à trouver. Est-ce qu'on cherche une couleur plutôt commune, à mettre en avant les individualités? Comment ça se passe?
Ah, bah c'est vraiment ça, c'est tout l'enjeu de ces groupes d'instruments avant. C'est comme en quintet avant, par exemple, on a 5 timbres complètement différents, l'octuor se rapproche beaucoup, donc il faut marier des anges doubles pour un son beaucoup plus perçant et beaucoup plus centré, on va dire, et beaucoup plus clair, avec un cor, quelque chose de beaucoup plus large et ouaté, avec une clarinette qui se retrouve un petit peu au milieu, en fait, dans le rôle du caméléon. Bah, c'est justement tout le travail d'essayer de varier les timbres pour essayer de se marier, d'essayer vraiment de trouver les bonnes dynamiques, les bonnes nuances, les bons timbres pour essayer de fusionner quand il faut, savoir ressortir quand il le faut. Donc c'était vraiment un travail de longue haleine et c'est quelque chose qui nous a vraiment, vraiment fascinés. Hein.
Thank you.
L'andante de la 12e sérénade de Mozart qui figure au programme du premier volume de cette intégrale de l'œuvre avec clarinette de Mozart que réalise Nicolas Baldeyrou avec ses partenaires Alexandre Chabot, Gabriel Pidou, Hélène de Villeneuve, David Dousseau, Thomas Quinquennel, David Guerrier, Hugues Vialon et Yann Dubost qui lui est à la contrebasse. Nicolas Baldeyrou, notre invité ce soir sur Radio Classique. Donc c'est un double album qui vient de paraître chez Alpha, double album puisque le deuxième CD est consacré à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de ce genre de la sérénade, c'est la Grande Partita de Mozart. C'est l'une de ses œuvres les plus ambitieuses, comparable d'ailleurs dans ses dimensions et dans son écriture, dans sa richesse à une symphonie.
Ah, tout à fait, c'est même presque beaucoup plus important et imposant qu'une symphonie.
Oui, parce qu'elle est plus longue que bien des symphonies de Mozart.
Exactement, on est quand même sur une pièce qui dure entre 45 et 50 minutes selon les interprétations et les tempi. Donc c'est vraiment un sommet de notre répertoire d'instruments avant. C'est une sorte d'immense cathédrale en fait, ou alors d'opéra imaginaire, comme on aime l'appeler. C'est vraiment déjà quelque chose d'unique, qui n'a d'ailleurs pas eu de suite, parce qu'on n'a pas vraiment de grandes pièces de cette envergure dans les siècles à suivre. On a peut-être la sérénade de Dvorak, mais quand même un petit peu moins ambitieuse. On est déjà au sommet du divertissement, on va dire, quoi. Mozart a pris cette forme de la sérénade pour l'amplifier, la magnifier, et en faire quelque chose d'absolument insurpassable.
Et le fait d'avoir rajouté des instruments supplémentaires, puisque vous êtes 13 là, voilà. Qu'est-ce que cela apporte ? Une amplification sonore, bien entendu, mais au niveau des textures, au niveau du travail sur l'équilibre, sur les...
Alors pour moi, c'est surtout l'ajout des cordes bassettes qui change tout. Hein. C'est vraiment deux instruments absolument révolutionnaires à l'époque, encore des instruments imaginés par ce cher Stadler. Et ça apporte une couleur très très particulière, une sorte de voix de contralto, en fait, qui s'ajoute dans le médium de l'ensemble. C'est quelque chose de vraiment unique. C'est des instruments qui ont été très peu réutilisés par la suite. Et alors, il y a bien sûr les quatre corps. On passe de deux à quatre corps, mais ça, pour le coup, c'est plus pour une sorte d'effet de... Voilà, ça donne un petit peu plus de masse, un petit peu plus d'amplitude, mais ça ne change pas foncièrement l'équilibre général. Par contre, les cordes bassettes, ça, c'est vraiment une couleur qu'on va retrouver d'ailleurs dans le Requiem après... Quelques années après.
Ouais, c'est vrai que c'est une œuvre fascinante, cette Grande Partita, avec des expressions très variées, beaucoup de profondeur, de volubilité, de légèreté. Une œuvre assez hors norme dans le catalogue. Unique, tout à fait, dans le catalogue de Mozart. On va en écouter un petit extrait dans un instant. Vous avez déjà pensé, Nicolas Baldeyrou, au deuxième volume de cette intégrale.
Il est déjà enregistré.
Il est déjà enregistré. Et on peut connaître le programme.
Bien sûr, c'est le concerto et la symphonie concertante. Donc voilà, les deux grandes pièce avec orchestre de Mozart.
Voilà. Et avec quel orchestre vous l'avez enregistré ?
C'est avec la Kölner Academy, donc
toujours
un très très bel orchestre
d'époque.
Sur instrument d'époque qui est basé à Cologne.
Ouais. Et des rendez-vous sur scène à venir assez loin, puisque vous allez voyager en Asie.
Exactement, moi j'ai beaucoup de déplacements à venir, donc une très très longue tournée en Asie au mois d'avril, avec pas mal de récitals entre Shanghai et Pékin, et ensuite des concerts en France et en Suisse à partir du début du mois de mai.
Des concerts en solo, puis bien entendu des concerts avec votre orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dont vous êtes clarinette solo. Merci infiniment, Nicolas Baldeyrou, d'avoir passé un moment avec nous.
C'était un grand plaisir,
merci
beaucoup.
Et on va se quitter avec ce final plein de vivacité, de virtuosité de la Grande Partita. C'est difficile à jouer ce final.
C'est très difficile, particulièrement pour les hautbois, en fait, qui ont une partie très virtuose avec des doigtés assez glissants.
Ouais, mais ça fait beaucoup d'effet, en tout cas pour l'auditeur. Merci infiniment. Et cette intégrale, le premier volume de cette intégrale, double volume, vient de paraître chez Alpha. Thank you. Le final de la Gran Partita de Mozart par Nicolas Balderou et ses complices, un nouvel extrait de ce superbe double album qui vient de paraître chez Alpha. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathis Alexandre pour sa réalisation. Dès demain, je vous retrouverai chaque soir depuis le Grand Théâtre de Provence puisque le journal du classique se délocalisera à l'occasion du Festival de Pâques, un festival qui débute dans quelques petits instants avec un concert d'ouverture que j'aurai le plaisir de partager avec vous.
Bonjour, c'est Élodie Fondacci. Que diriez-vous d'une nouvelle histoire pour les vacances ? Annabelle vivait dans un catalogue de jouets. Dans les pages roses, comme toutes les poupées. Grand Jim était aventurier conducteur de tractopelle. Dans les pages bleues, celles pour les garçons.
Découvrez Dinette dans le tractopelle, la nouvelle histoire en musique d'Élodie Fondacci. Un livre de Christos à retrouver aux éditions Talents Hauts.
La magie du Festival de Pâques, c'est sur Radio Classique, avec le CIC, partenaire fondateur.
Ce soir, vivez l'émotion des concerts en direct du Grand Théâtre de Provence. Une soirée présentée par Laure Maison.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent et bienvenue au Grand Théâtre de Provence pour ce concert d'ouverture du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence dont nous allons vivre cette année encore les moments forts sur notre antenne, des concerts en direct et dès demain un journal du classique chaque soir à 20h en compagnie des principaux acteurs du festival. Alors ce soir, Renaud Capuçon, le directeur artistique de la manifestation, lance les festivités en tant que chef à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et en compagnie de Martha Argerich, fidèle parmi les fidèles du festival, avec laquelle Renaud Capuçon entretient une longue et belle amitié depuis plus de 20 ans. Ils ont souvent joué ensemble, en sonate, mais ici c'est en concerto qu'ils se retrouvent, comme ils l'ont fait récemment à Lausanne ou encore hier soir à Toulouse, dans d'autres rapports donc de chef à soliste. Une nouvelle collaboration pour ces deux musiciens, mais que leur long compagnonnage de chambriste, leur profonde connaissance l'un de l'autre et leur confiance respective ne peuvent que rendre évidente. Alors c'est dans le premier concerto de Beethoven que Renaud Capuçon accompagnera ce soir Martha Argerich, l'un des concertos fétiches de la pianiste argentine, et cela avant de diriger l'orchestre dans la 8e symphonie de Dvorak. Et ce concert s'ouvrira avec une page de Charlotte Sauy, compositrice française de la Belle Époque. Charlotte Sauy, un nom qui nous était totalement inconnu il y a quelques petites années à peine, et dont l'œuvre est peu à peu réhabilitée, comme celle d'autres compositrices oubliées. Charlotte Sauy, née en 1887 et morte en 1955, dont nous entendrons dans quelques instants, dans quelques petites secondes, une danse mystique dirigée donc par Renaud Capuçon à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. La musique angoissante, mystérieuse, mais aussi pleine de lumière de Charlotte Sowy, c'était la danse mystique, opus 19, jouée par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Renaud Capuçon, en concert au Grand Théâtre de Provence. C'est le concert d'ouverture du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence que nous partageons ensemble ce soir, en direct sur Radio Classique. Un concert qui débutait donc avec la musique de Charlotte Sowy, cette compositrice de la première moitié du XXe siècle, grande figure de la musique française, mais oubliée, dont plusieurs œuvres de la musique de chambre, des mélodies, comme des pages orchestrales, ont été remises à l'honneur récemment par des musiciens de haut vol, comme ce soir les musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, mais aussi sous la houlette du Palazzetto Bruzane, comme de l'association fondée par Héloïse Luzzatti, la cité des compositrices via son formidable label La Boîte à Pépites, donc une compositrice dont on entend parler depuis quelques petites années et qui a été redécouverte par Deborah Waldman. Alors après la musique plutôt confidentielle de Charlotte Sowy, la musique bien connue de Beethoven, c'est le premier concerto pour piano de Beethoven que nous entendrons dans quelques instants, le temps d'un changement de plateau permettant d'installer le piano. Et c'est Martha Argerich qui sera au piano. Alors Martha Argerich a toujours manifesté sa passion pour les concertos de Beethoven, qui occupent une place essentielle dans son répertoire, à l'exception peut-être du quatrième. Ce premier concerto, elle nous en a laissé plusieurs enregistrements avec Giuseppe Sinopoli et l'Orchestre Philharmonia, ou encore Seiji Ozawa avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise. Elle le joue très régulièrement en concert. On sent chez elle d'ailleurs un amour particulier pour les deux premiers concertos de Beethoven, dont elle doit sans doute apprécier la fraîcheur, la fougue, les accents mozartiens, les finales assez riants enjoués en forme de rondo qui permettent aux solistes de briller. Alors, le premier concerto, qui est en réalité le deuxième de Beethoven dans l'ordre chronologique, date de l'année 1795, alors que Beethoven résidait à Vienne et se produisait en tant que pianiste. Il était d'ailleurs plus connu comme pianiste virtuose que comme compositeur. Ce concerto numéro 1, il le composa très rapidement et écrivit même, dit-on, le final 2 jours seulement avant la première. L'œuvre s'ouvre, et vous allez l'entendre dans quelques instants, par un thème d'apparence militaire. La musique militaire était très en vogue dans la Vienne des années 1790 et Beethoven était passé maître dans cet art, comme en témoignent les 2 mouvements extrêmes d'ailleurs de ce concerto. Quant au mouvement lent, véritable sommet émotionnel de l'œuvre, il apporte, comme Mozart avait su habilement le faire auparavant, un moment de gravité entre 2 mouvements aux allures légères et enjouées, entre un premier aux accents militaires et puis un final sur un rondo plein d'entrain et d'humour. Et on peut compter sur le tempérament, le toucher si énergique et subtil de Martha Argerich pour faire ressortir ses élans, mais aussi ce grand raffinement dont Beethoven fait preuve dans ce concerto, aux accents encore très mozartiens. Un Beethoven juvénile qui s'est admirablement jonglé entre la gravité et la farce et qui témoigne d'une maîtrise incroyable des possibilités pianistiques. Lui qui n'était pas encore sourd et qui brillait justement sur scène en tant que virtuose du clavier. Voilà, dans quelques instants, Martha Argerich fera son entrée sur scène avec Renaud Capuçon. Renaud Capuçon qui dirige ce soir l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, un orchestre qu'il connaît bien, avec lequel il s'est tant de fois produit au violon, et puis un orchestre que l'on a l'habitude d'entendre régulièrement sur Radio Classique en concert, un orchestre qu'on se réjouit de retrouver ce soir à l'occasion de notre première grande soirée en direct du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Voilà, dans quelques petites secondes, le changement de plateau est terminé. Ce premier concerto de Beethoven avec Martha Argerich, Renaud Capuçon et les musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Martha Argerich qui fréquente le Festival de Pâques depuis sa création, qui s'y est très souvent produite en concert, en concerto, comme en musique de chambre. Voilà, vous entendez aux applaudissements l'arrivée sur scène de Martha Argerich avec Renaud Capuçon, très belle suite de concerts en direct sur Radio Classique.